Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio, tôt le matin ou en podcast, quand vous voulez. Tous les mardis, c'est l'actualité des expositions et aujourd'hui, on va à Lyon. Le musée des Beaux-Arts de Lyon présente jusqu'en mars une exposition sur un thème qui n'a jamais été abordé en tant que tel, le drapé. Et pourtant, depuis la nuit des temps et des représentations, le drapé n'a cessé d'influencer, de fasciner même les artistes à travers les siècles. Comment cacher les corps pour mieux révéler les formes? Depuis l'Antiquité donc, et jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, l'exposition propose une réflexion sur l'évolution de la représentation de la draperie et des plis à travers le temps, et surtout à travers la peinture, la sculpture, le dessin, la photo, la vidéo. Drapé, c'est le titre de l'exposition, c'est jusqu'au 8 mars 2020 au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et notre invité ce matin est le co-commissaire de l'exposition, Éric Pagliano.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Éric Pagliano.
Bonjour.
Toute cette semaine, on s'intéresse à la culture dans toute la France, dans toutes les villes de France. Alors, on va parler de Lyon. Vous êtes plutôt bien loti en matière culturelle. Avant de parler de l'exposition.
À Lyon?
Oui.
Oui, je crois que la ville recèle de nombreux trésors et de nombreux musées.
Et d'une politique culturelle adéquate?
Je pense, oui. En tout cas, le Musée des Beaux-Arts de Lyon organise des expositions très importantes chaque année. Celle-ci se termine le 8 mars et elle est unique en son genre. On n'en a jamais fait avant et je crains qu'on n'en fasse jamais après.
Pourquoi? Parce qu'il fallait vraiment avoir des moyens pour réunir ces 250 œuvres que vous exposez, pour tracer une petite histoire du drapé de l'Antiquité à nos jours?
Il faut des moyens, effectivement, des moyens budgétaires, des moyens intellectuels aussi, pour réunir toutes ces œuvres. Ça a demandé plus de 4 ans. Toutes les civilisations, hein, toutes les périodes sont concernées par le drapé, donc il fallait faire des choix, suivre une problématique qu'on va certainement aborder, et voyager dans les collections publiques et privées pour obtenir les prêts, aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis.
Le drapé, donc. S'il fallait raconter cette exposition...
On n'a pas voulu esquisser une histoire du drapé, en ce sens que nous n'avons pas privilégié une présentation chronologique au sens historique du terme. Donc on commence pas par le commencement, supposé, généralement tout commencement est mythique. Pour la civilisation occidentale, c'est l'Antiquité grecque et romaine.
Très présente dans cette...
Très présente, enfin à travers une seule œuvre. On continuerait par le Moyen-Âge, ensuite par la Renaissance, puis l'époque moderne et le XXe siècle. On n'a pas suivi cet ordre-là pour dire que le drapé est né... se maintient, renaît et meurt. Non. On a choisi un autre angle de vue, une autre problématique, un autre axe, celui des processus de création. Donc, comment les artistes mettent en place une forme drapée, une composition réunissant des figures drapées. De la Renaissance jusqu'à maintenant, mais aussi en deçà et un peu au-delà, hein, on a des œuvres qui datent d'avant-hier, je dirais, ou même d'hier, qui ont été réalisées pour l'exposition. Donc voilà le fil rouge qui a permis de réunir 248 œuvres ainsi que des vidéos.
Ça, c'est le fil rouge. Il fallait parler de l'origine, de cette envie de traiter ce thème.
Alors l'envie, elle est liée à nos histoires respectives, la mienne et celle de Sylvie Ramon, qui est la co-commissaire de l'exposition et qui dirige le musée des Beaux-Arts de Lyon. Sylvie dirigeait un important musée à Colmar, le musée Unterlinden, où est conservé le retable d'Isenheim de Matthias Grünewald, qui est un chef-d'œuvre de la peinture occidentale. Et au-delà de son iconographie saisissante, toutes les figures sont drapées de larges plis. Il y a des tentures aussi. C'est une œuvre qui est constellée de draperies. Et moi, de mon côté, j'étais conservateur à Orléans pendant quelques années. Et quand je suis arrivé en 2000 dans ce musée, on m'a demandé d'étudier le fond de dessin qui n'avait
Parce
jamais
que vous êtes
été...
spécialiste de dessin, je
oui,
rappelle, Éric Pagliano.
Je suis devenu spécialiste de dessin à cause ou grâce à mon expérience au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et j'avais constaté qu'il y avait deux types de dessins, des dessins de nus et des dessins de drapés. Et à l'époque, je ne faisais pas le lien. C'est par la suite que je me suis aperçu que les deux étaient liés.
Que le drapé était là pour suggérer, pour magnifier les corps nus.
Tout à fait. Le drapé est quelque chose qui à la fois cache, mais aussi montre et révèle le nu, le corps nu. C'est toute une section d'ailleurs de l'exposition, la deuxième.
Comment vous avez conçu cette exposition? À partir de quelles questions? À partir de quelles problématiques?
Alors, on avait deux problématiques qui s'entremêlaient quand on a commencé à étudier ce sujet. On souhaitait évoquer la question de ce qu'on appelle la survivance. Hein. Bon, c'est la traduction française d'un mot allemand, Nachleben, qu'un historien de l'art germanique, de la fin du 19e, début du 20e, utilisé, qui s'appelait Abi Warburg, et qui avait étudié le voile, enfin le drapé, qu'il considérait comme étant un accessoire, à la fois cachant, montrant le corps, mais un accessoire pathétique, c'est-à-dire qui exprimait des passions, des émotions. Et le point d'origine était placé à l'Antiquité, durant l'Antiquité, bien entendu, tout ceci à la Renaissance renaît. Donc on voulait insister sur cette notion-là à travers la pensée de Warburg, qui a été en partie en France commentée par Georges Didier Berman dans ses différents écrits, notamment ses textes, ses livres qu'il a consacrés à la figure de la ninfa. Et puis, on voulait également dépasser cette question de la survivance à travers celle de ce qu'on appelait la survenance. Donc comment les formes se mettent en place, comment elles sont étudiées. Car s'il y a survivance, c'est parce qu'il y a eu d'une certaine manière survenance. Parce que les artistes, de génération en génération, ont su hériter à la fois et transmettre l'apprentissage de la forme drapée. Et on voulait suivre ce fil conducteur à travers l'émergence, l'étude de la forme drapée. Et l'objectif, ça a été de présenter une sorte d'œuvre d'art fictive, d'une certaine manière, qui réunit toutes les étapes, toutes les séquences de préparation d'une figure drapée. Et ce sont les trois parties de l'exposition. La première s'intitule les pratiques d'atelier. Donc on entre de manière métaphorique hein, dans l'atelier de l'artiste à travers les accessoires qu'il utilise.
Donc on est plus dans la fabrique que dans le geste artistique.
Dans la fabrique et à la fois dans le geste. On le voit au fur et à mesure de l'exposition s'exprimer. Et surtout dans la troisième partie, là où on est au cœur même de la draperie, d'où le titre « Anatomie de la draperie », on essaye de disséquer à travers des dessins et des photos, et également des peintures, des sculptures, la forme drapée. On est vraiment au cœur même de la matière représentée, le tissu.
Donc le tissu, et puis surtout comment les pratiques singulières ont évolué pour travailler le tissu.
Il y a à la fois une évolution et une permanence. C'est ce qu'on a voulu montrer au 15e, 16e, 17e, 19e, 19e et même jusqu'au 20e. Pour la question, par exemple, de nu et du drapé, on s'est aperçu avec Sylvie qu'il y avait des procédés qui étaient inlassablement repris, à la fois de manière permanente, mais avec également des nuances selon les artistes et selon les époques. Alors, quand on parle de nu et de drapé, il faut savoir que la draperie n'a pas de forme en soi. C'est le corps qui donne à la draperie sa forme. Le nu est une forme formante. Le drapé est bien entendu revêt le corps et c'est le corps qui structure même le drapé. Et ça, c'est une injonction qui, dès le 15e siècle, notamment à travers un théoricien de l'art qui s'appelle Alberti, qui a publié, pas une publication parce qu'à cette époque l'imprimerie n'existait pas, mais qui a écrit autour de 1435 un traité très important qui s'appelle le De Pictura, de la peinture, traduit en italien, De la Pittura, par Alberti lui-même. Et il dit dans ce traité que les artistes doivent, pour représenter le nu, passer par le stade du... pour représenter le drapé, passer par le stade du nu. Et ensuite, cette injonction se retrouve sous la plume de tous les théoriciens jusqu'au 19e siècle. Et au 20e, on pensait, avec Sylvie, que tout était mort, tout avait disparu. Mais Sylvie souhaitait à juste titre que le 20e soit représenté. Donc on a cherché. À l'origine, on voulait constituer tout un dossier préparatoire autour d'un tableau de Balthus, qui s'appelle « La semaine des quatre jeudis ». Car on s'était aperçu, en consultant le catalogue raisonné, que Balthus également travaillait de cette manière. Pour ce tableau, les figures avaient été dessinées nues, puis drapées. Il y avait même des photographies. Malheureusement, on n'a pas obtenu le prêt de ce tableau. Et en visitant une exposition au musée d'Orsay consacrée à Picasso Rose et Bleu, on s'est aperçu qu'en 1905, juste avant le cubisme, Picasso travaillait également de cette manière. Mais dans l'expo, les deux dessins, pour la même figure, étaient accrochés séparément. Il y avait un autre dessin qui était placé entre les deux. On a fait des recherches en consultant les catalogues raisonnés et on s'est aperçu qu'en 1921, à une époque dite du retour à l'ordre, Picasso reprenait également ce procédé de recherche pour un tableau qui est au MoMA à New York et pour lequel il a, pendant tout un été, dessiné, gravé, peint. On a presque une centaine d'œuvres préparatoires pour ce grand tableau, dont un dessin qui est au musée Picasso qui nous a été prêté, où l'on voit la même figure nue et drapée. Donc c'est fantastique. Non seulement Picasso reprend un thème classique, il s'inspire de Nicolas Poussin et de la Grèce antique, mais en plus il reprend un procédé académique. Donc bon, ça reste exceptionnel dans sa carrière. Mais il y a une sorte de mémoire chez les artistes du XXe siècle. À certains moments de leur carrière, ils retournent vers des procédés de recherche qu'on pensait absolument révolus.
Drapé, c'est au Musée des Beaux-Arts, donc jusqu'au 8 mars 2020, et vous nous expliquez très bien donc les techniques, parce que ça reste aussi une exposition sur comment travailler le drapé, Eric Pagliano, mais ça n'empêche pas aussi de se poser la question sur l'aspect symbolique du drapé. Vous venez de nous dire à quel point le nu et le drapé étaient intimement liés, qu'il fallait passer par le nu pour réussir le drapé, mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'origine, le drapé était là pour détourner le nu, contourner la censure?
Alors,
pas toujours.
Pas toujours.
Ben c'est ça qui est
alors
intéressant.
J'ai en tête une citation de Vasari, qui est un peintre, théoricien, historiographe du XVIe, et qui parle de la vie de Donatello d'une annonciation. Donc, c'est un thème on ne peut plus religieux. Il dit qu'on voit les cuisses de la Vierge, qu'on voit la Vierge pratiquement nue sous le drapé. Non pas pour critiquer cet artiste, mais au contraire pour l'encenser, parce qu'il a retrouvé tout simplement l'antique. Donc c'est assez extraordinaire. On est en plein XVIe. Certes, bon, on n'est pas à une époque où dominait la censure. Enfin, je voulais parler du Moyen-Âge, mais je préfère pas m'étendre là-dessus. Mais au XVIe siècle, il y a quand même une prégnance encore assez forte de la religion. Mais Vasari le dit de manière explicite, et tous ces artistes de la Renaissance ont essayé de retrouver ces formes nues. Et même au XVIIe siècle, on a un autre critique qui s'appelle Passeri, qui commente une statue également d'une sainte, qui est conservée à Rome, dans une église, d'un grand sculpteur qui s'appelle Duquesnoy, et lui aussi, il célèbre le nu à travers le drapé. Et Théophile Gautier ira dire au XIXe siècle, la draperie, c'est le nu, quoi. C'est fantastique.
C'est le nu ou c'est suggérer le nu?
C'est suggérer le nu, bien entendu. Il faut caresser le nu. C'est des mots que l'on retrouve sous la plume de théoriciens et de critiques et d'artistes. Ne serait-ce que d'utiliser ce mot caresser qui a une connotation érotisante. C'est quand même assez fabuleux. Là, on est au 18e, au 17e siècle. Donc, et ça, c'est dit de manière explicite.
Ils étaient beaux. Ils étaient blancs, les draps qu'avait tissé ma mère. Je me revois petit enfant dans notre logis de lumière. Ils étaient beaux, ils étaient blancs, les draps qu'avait tissé ma mère. Je me revois adolescent, hanté déjà par des chimères. Témoin, ces draps que j'aime, à cœur trop lourd, amour trop grand, à neuf, j'ai pleuré sur moi-même.
les draps qu'avait tissé ma mère, Pierre Mallard, pour parler de l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'en mars 2020, drapé, et nous en parlons ce matin dans le Réveil culturel avec le co-commissaire de l'exposition, Eric Pagliano, qui dit drap, dit couleur blanche.
Oui, le drap est associé à la couleur blanche et c'est tout le thème de la conclusion de l'exposition. On aboutit à la dernière salle du musée où sont présentées des œuvres, à la fois des peintures, des sculptures, enfin une seule sculpture et des photos, une installation où domine la couleur blanche et en particulier un drap de Luciano Fabbro. Et toutes ces œuvres, en fait, évoquent le passage de la draperie en tant que motif artistique à la draperie en tant que sujet à part entière, c'est-à-dire que la draperie se fait voile, la draperie se fait fantôme, avec deux photographies de Manet où l'on voit Dali drapé, qu'il avait commandé au photographe américain pour la revue Minotaur. Il avait écrit dans cette revue un article où il se plaignait de l'obésité des fantômes. Alors il faut savoir que sur la photo, on voit Dali, bien entendu, tout fluet, tout mince, on reconnaît très bien l'esprit de Dali. Il y a une statue du XVIIIe siècle d'un sculpteur vénitien qui s'appelle Corradini, qui représenterait de manière allégorique la foi. Mais il faut savoir que les plis, ce n'est que plis, cachent et montrent à la fois des seins et tout un corps, bien entendu. Et il y a un triptyque de Zineb Zedira qui s'intitule Autoportrait en Vierge Marie, et cette œuvre est à la croisée, bien entendu, des civilisations occidentales et orientales, et le drap de Fabbro qui fait écho à la fois au drap du trousseau et au linceul. Donc tous ces objets, où domine la draperie, deviennent des motifs thématiques, artistiques. On quitte le domaine de la fabrique, le domaine des processus de création pour arriver à la draperie en tant que sujet iconographique.
Et puis aussi en tant que sujet social, même s'il n'est que suggéré, oui. Le drap, c'est aussi le voile.
Alors, on n'a pas voulu aborder de front des sujets qui font l'actualité d'une certaine manière.
Mais ils sont présents.
Ils sont présents.
La photo des femmes maghrébines voilà. Voilées, on voit très bien, d'autant plus que effectivement, on peut parler aussi de drapé, on peut même parler d'esthétique du haïk, donc puisque c'est plus un voile traditionnel que le fameux voile qui pose problème parce que intimement lié à une forme de religiosité de la religion musulmane.
Alors, ce sont pas des œuvres qui ont été choisies pour montrer un message de manière explicite. C'est des œuvres qui suggèrent, qui sont toutes en nuances.
Et qui suggèrent quoi?
Alors, qui suggèrent à la fois des sujets qui nous concernent tous, qui sont très actuels, qui sont là, effectivement, le voile islamique. Mais c'est des œuvres qui sont véritablement à la croisée des civilisations et qui posent toutes sortes de questions de manière sous-jacente. Prenons l'exemple du diptyque que vous avez évoqué de Janan Alani. Janan Alani, originaire du Proche-Orient, mais sa mère est irlandaise. Et sur ce diptyque, elle montre l'imbrication à la fois des grandes traditions occidentales et orientales, du voile et du drapé. En ce sens que, d'un côté et de l'autre, puisqu'il s'agit d'un diptyque, sur les mêmes photographies, on voit des membres de cette famille qui sont en partie voilée, en partie dévoilée, en partie drapée, en partie dédrapée. Il y a tout un jeu sur le corps, nu ou en cours de déshabillage, et sur le corps drapé. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'imbrique. Et puis il y a le sens de lecture aussi. Doit-on lire de gauche à droite, de droite à gauche, suivre l'ordre de lecture de l'arabe ou des langues occidentales, qui est bien entendu différent. Donc il y a en jeu toutes sortes de choses qui sont à la fois esthétiques et politiques, effectivement. Et il en est de même pour le triptyque de Zineb Zedira, ne serait-ce que d'avoir choisi le format triptyque, les trois panneaux, qui renvoient à la tradition occidentale de la peinture religieuse. Le sujet, autoportrait en Vierge Marie. Mais quand on regarde attentivement les trois figures sur ces trois panneaux, c'est effectivement elle en autoportrait, mais voilée. Son visage est voilé. On le devine parce qu'elle n'est pas de face. Elle est de trois quarts. Et là aussi, on est tout en nuance entre l'Orient et l'Occident, entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Voilà. C'est quelque chose qui célèbre d'une certaine manière le caractère hybride des choses, quoi, le mélange. Quoi.
Et puis enfin, pour terminer, le drapé, c'est aussi ce qui sert à cacher une œuvre en cours de finition.
Alors là, vous faites écho, je pense, à une statue, à un plâtre de Rodin, confronté à un bronze également de Rodin. Rodin est un artiste fantastique, et bien entendu, bon, ça, c'est ce que je dis, est une évidence. Mais ce qui le rend, à nos yeux, précieux, c'est qu'il a transformé des processus de création ou des procédés particuliers,
oui, des pratiques
artistiques
qui deviennent de l'art,
motif, ouais, à part entière. Ouais. Et le plâtre en question, ça s'intitule « L'âge des reins drapés ». Donc c'est un titre que le musée Rodin a donné à cette œuvre qui a été redécouverte assez récemment dans les réserves du musée. Et le visage que l'on voit, que l'on entrevoit plus exactement, est celui d'une statue que Rodin avait exécutée bien auparavant, qui s'intitule « L'âge des reins ». L'âge des reins est une montre, une figure masculine entièrement nue. Et il faut savoir que dans les ateliers, pour conserver les statues, les plâtres notamment, ou les terres cuites, on les protégeait d'un tissu, donc d'une certaine manière d'un drapé. Et Rodin, qui était sensible à toutes ces formes-là, a dû être en admiration devant, dans son propre atelier, les plis du drapé posés sur une version en plâtre de l'âge des reins, et il a transformé ceci en œuvre d'art à part entière. Donc on l'expose. Là, c'est un drapé qui, en fait, s'inspire d'une œuvre antérieure. Les deux œuvres n'appartiennent pas au même stade préparatoire, puisqu'il y a une différence chronologique.
Alors, comment vous voyez justement cette belle pièce, en disant que ça vient nous rappeler que ce qui est caché suscite en nous plus de curiosité, de plaisir, que ce qui va être finalement dévoilé, et que ça sert à ça aussi?
Oui, alors le drapé, ça sert à ça. Alors, ça me fait penser à une anecdote, à une histoire que raconte Pline l'Ancien dans le livre 35 de la peinture, concernant un peintre grec qui s'appelle Timanthe, qui était désespéré, il n'arrivait pas à représenter la douleur d'Agamemnon face au sacrifice de sa propre fille, Iphigénie. Donc, il n'y arrivait pas. Il a décidé, je voile le visage d'Agamemnon. Et en voilant ce visage, il suggère quelque chose. Il suggère une passion, un pathos. Et c'est beaucoup plus fort, quoi, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on peut imaginer aussi pour le drapé quand on le regarde avec un œil plus érotisant, quoi. Quand on devine ses formes. C'est plus beau, d'une certaine manière, de voir un drapé cachant et dévoilant une forme nue que le nu en tant que tel, quoi.
Ouais. Et en même temps, quand vous dites ça, Eric Pagliano, on vous entend avec une oreille plutôt critique. C'est-à-dire que c'est un débat sociétal. Qu'est-ce qu'il faut cacher? Qu'est-ce qu'il faut pas cacher?
Oui, alors là, je suis dans l'ordre esthétique, quoi. Je suis, ouais, dans la peinture, je suis dans les arts, quoi. Ouais. Mais pas seulement, puisque bon.
Les
arts concernent la vie, toute la vie,
une résonance,
oui, bien entendu. Mais là, je parle de la vie en général.
Dévoilons les statues ou pas?
Il faut les montrer telles qu'elles sont et les confronter. C'est ce qu'on fait dans l'exposition. On confronte les nus et les drapés en permanence, quoi. Il y a toute une section là-dessus, la deuxième, où on voit la même figure nue et drapée. Alors, il y a environ une quarantaine d'œuvres sur ce sujet-là, de Lorenzo Di Credi, le dessin le plus ancien, jusqu'à Picasso, quoi. C'est cette confrontation qui est assez fascinante, dans le domaine de la photo aussi, d'ailleurs. On a trouvé un carnet qui appartenait à un sculpteur belge, Jacques Delalain, où l'on voit photographier le même modèle vivant nu, puis drapé, quoi, sur plusieurs pages. Quand on avait commencé nos recherches avec Sylvie, on s'était dit, bon, la photographie a dû être utilisée par les artistes également pour penser leur composition. Et on a trouvé ce que l'on cherchait. Il s'est exposé dans une des sections.
Et ça continue aujourd'hui dans les écoles de Beaux-Arts, par exemple? Est-ce que pour représenter le nu, on passe par le drapé ou...
Alors, je ne crois pas que ce soit encore d'actualité. Ceci dit, on trouve encore dans le commerce pas mal d'ouvrages consacrés à l'étude des drapés. Donc, il y a une demande, certainement. Et il y a encore des artistes qui travaillent, on a été sollicités lors de la préparation. Mais je ne peux pas vous dire exactement si dans les écoles d'art, il y a encore des cours là-dessus. Les derniers cours, à ma connaissance, qui ont été donnés, remontent à l'entre-deux-guerres par Gaëtan Gastian de Clérambeau, qui fait l'objet d'ailleurs d'une section monographique dans l'exposition. À l'École des Beaux-Arts à Paris, c'était le dernier à avoir enseigné la draperie sur modèle vivant à destination des étudiants de l'école.
Et enfin, qu'est-ce qu'on utilise comme tissu pour le draper ?
Alors, toutes sortes de tissus, que ce soit la soie, le lin, la laine. Mais comme le dit Reynolds, le drapé, c'est avant tout la forme.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
L'exposition Drapé, c'est au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 8 mars 2020. Merci Éric Pagliano. Je rappelle que vous êtes un des deux commissaires de cette exposition. Merci d'être passé ce matin pour nous en parler.
Merci à vous.
Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Jean-Louis Deloncle. Bonne matinée et à demain.